Bon, alors on va commencer. Bien, donc nous avons le plaisir de recevoir Alain Weinstein pour le livre qui vient de publier par les éditions Grasset, 140 signes. Évidemment, 140 signes, évidemment. Ça fait référence à une contrainte littéraire qui serait de l'ordre du tweet, du Twitter, même si je pense que ce livre est avant toute chose... un livre de pure littérature qui permet à Twitter de rentrer en quelque sorte dans l'espace littéraire et que ce livre se lit véritablement comme une suite et surtout pas à travers, entre guillemets, je dis bien à travers les fragments qui le constituent, mais il s'agit véritablement d'un livre qui s'inscrit dans une continuité. Néanmoins, je n'éviterai pas la question du tweet, et de l'origine de ce livre et de cette découverte du tweet qui doit, je crois, beaucoup ou un peu à votre fille.
Oui, c'est-à-dire au hasard. Bon, il se trouve que ma fille est de cette génération qui utilise les nouvelles technologies comme elle respire, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et un jour, elle m'a abonné à Twitter d'autorité. Il a donc fallu que j'imagine une vie avec Twitter. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai dû regarder sur Google ce qu'on pouvait faire avec Twitter, ce que c'était exactement. Et j'ai vu que c'était exactement ce que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire... des messages, des mini-messages qu'on envoie. Bon, Twitter est un réseau social, donc pour entrer en contact, communiquer avec d'autres personnes et généralement à des fins promotionnelles de sa propre activité. Or, bien que travaillant à la radio depuis longtemps, je ne suis pas du tout un homme de communication. Enfin, je ne me pense pas du tout comme ça. Donc, il a fallu que Twitter, pour être un instrument possible à mes yeux, cesse d'être un outil de communication, mais un moyen d'expression. Un moyen de dire des choses de la même manière que je peux les dire dans des textes baptisés poèmes ou romans. Voilà, donc j'ai détourné, comme vous le laissiez entendre, Twitter vers l'espace littéraire, vers l'espace de la littérature, ce qui a l'air relativement simple à énoncer, mais qui n'est pas accepté du tout. J'ai fait, par exemple, au moment du livre sur la place à Nancy, une rencontre avec Bernard Pivot, qui lui-même a publié au printemps dernier un recueil de quelques-uns de ses tweets, puisqu'il est aussi un tweeter assidu, et il déniait à Twitter toute légitimité littéraire. J'avoue ne pas très bien comprendre ce raisonnement. Il est vrai que lorsque j'utilise Twitter, je l'utilise évidemment à contre-emploi, à contre-courant, ce qui sans doute est une façon de pirater l'outil. Et c'est peut-être ce qui scandalise certains, c'est qu'on puisse pirater un outil comme celui-là. Voilà.
D'ailleurs, à un moment, vous utilisez le mot de piratage. Malgré tout, si on lit le livre, même si on peut y mettre la question de Twitter, c'est un livre qui peut se lire, j'allais le dire, sans avoir à l'esprit, quelque part, le tweet. C'est-à-dire que c'est un livre qui est un véritable objet littéraire en soi. Et alors, j'imagine quand même que Twitter a son importance. D'ailleurs, vous dites, je crois, c'est dans le propos introductif, « Prise dans la violence de l'instant, les phrases devaient donc rejoindre une autre temporalité, celle du cours de la vie, telle que la lecture, page après page, la restitue. »
Il y a évidemment une grande différence entre envoyer des tweets au coup par coup, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Enfin, c'est comme ça que ça se passait, en tout cas, pour les tweets qui sont rassemblés dans ce volume. Chaque fois qu'un tweet s'imposait à moi, je le tapais sur le clavier de mon téléphone portable et le tweet partait dans la nature. C'était vraiment du coq à l'âne, du coup par coup, dans l'immédiateté. Alors que quand ma décision a été prise d'utiliser ces tweets pour en faire un livre, je me suis trouvé devant une toute autre problématique. Là, il a fallu que ces tweets me permettent de construire un véritable objet littéraire se lisant du début jusqu'à la fin, et non pas en piochant ici ou là des tweets qui auraient été replacés dans le rythme de leur adresse initiale. Voilà. Donc, j'ai dû construire un objet littéraire, c'est-à-dire prendre mon temps, ce qu'on ne fait pas lorsqu'on fait des tweets au jour le jour, faire preuve de patience, quelquefois d'impatience, et me retrouver seul avec moi-même et le livre à construire, alors que lorsqu'on envoie un tweet, c'est ça, la grande différence, on n'est pas seul. On sent immédiatement au jour d'aujourd'hui, quelque chose comme pas loin de 4500 abonnés. On sent les yeux des 4500 abonnés immédiatement collés sur le tweet que vous avez envoyé. Et ça a aussi des conséquences sur le mode d'écriture, évidemment, de ces tweets. Et lorsque je les reprends pour faire un livre, il est bien évident que ces défauts de l'urgence et de l'impatience, je m'applique à les corriger, car un livre, à mes yeux, reste un livre.
Et c'est d'ailleurs un livre construit, parce qu'effectivement, entre guillemets, il y a du montage, c'est-à-dire qu'on retrouve des textes qui sont nés du tweet, on retrouve aussi de la fiction pure, comme on retrouve également ce qui serait de l'ordre du carnet, avec vraiment ce souci du temps, puisqu'on est aussi sur une forme de journal, même si peut-être que ce livre est avant tout le roman, je crois que le roman d'une vie, je crois que c'est vous qui le dites, ou je ne sais plus où je l'ai lu. En tous les cas, il serait plutôt dans le compagnonnage du roman.
Un roman qui serait dans le compagnonnage du temps, en effet, parce que c'est le point central, c'est le pivot autour duquel tout le livre tourne. Le temps qui passe, évidemment, la vieillesse, la pensée de la mort aussi, comme expérience, à partir de mon mystère autobiographique lié à un passé que j'ignore complètement. Je suis quelqu'un qui essaye de reconstituer jour après jour une histoire qui lui fait défaut. Voilà. Donc il y a beaucoup de fiction, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses vraies, mais plus vraies même qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que je dis dans ce livre beaucoup de choses que je n'ai jamais écrites, même si je les ai parfois effleurées, et que je n'ai même jamais osé dire à personne, et quelquefois même pas à moi-même.
Alors, vous dites en introduction que des mots ont été vos étoiles conductrices. Il faut bien entrer un petit peu dans le livre. Vous parlez du mot rêve, du mot roman, du mot radio, du mot marché. Il y en a bien d'autres. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mots qui scandent un petit peu le texte.
Oui, il y a des thèmes obsessionnel et récurrent. Quelquefois, c'est le nom d'une station de métro, Gaîté, par exemple. Bon, il se trouve que sur la ligne que j'emprunte le plus souvent, la ligne 13 du métro parisien, il y a une station qui s'appelle Gaîté. Donc, je décline ce mot Gaîté chaque fois que je passe à la station et j'envoie un tweet sur la Gaîté. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça. Marché, c'est pas le marché dont parlent les économistes, c'est le marché où on va faire ses courses. Pour moi, c'est le dimanche matin. Donc, pendant tout le temps d'écriture de ce livre, j'essayais de... aux aguets en permanence, j'essayais de recueillir des petites phrases, des détails humoristiques sur la vie d'un marché dans une commune de la banlieue parisienne.
Alors, il y a des lieux, effectivement. Il y a le marché, il y a... on trouve même des lieux sur lesquels vous êtes entre guillemets en voyage. On trouve même Malaga à un moment donné, Avignon, le théâtre qui revient assez souvent dans ce livre. Et puis il y a des lieux, il y a aussi des personnages, parce que il y a un certain nombre de personnages qui sont très attachants. Alors il y a un personnage qui est amusant, parce que dans ce livre je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Et il y a par exemple le personnage de la jeune femme au chien. Vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur ce personnage.
Je ne suis pas sûr qu'elle existe.
Je suis même persuadé que... Justement, raison de plus.
Non, ce qui est vrai, c'est qu'il m'arrive souvent dans cette commune de Malakoff de promener, non pas mon chien, mais le chien de ma fille, parce que c'est toujours comme ça. Ma fille est à l'origine de tout, et y compris de son désir d'avoir un chien dont elle n'a pas le temps de s'occuper. Donc je promène le chien, et en promenant le chien, en rencontrant des personnages, des personnes vivantes, je leur donne un statut de personnage. J'imagine, à partir de ce que j'entrevois de leur personnalité, ce qu'ils peuvent être, et je leur trace une histoire en les retrouvant, évidemment, à intervalles réguliers dans le livre. Mais bon, cette jeune femme au chien, si elle a existé, ce n'est que très, très fugitivement, une fois, comme ça, par hasard. Mais, comme tous les autres, d'ailleurs, même les personnages réels. Les personnages réels n'existent pas, j'ai envie de dire, parce que je n'ai aucune relation avec eux, hein, comme Paul Claudel, par exemple, qui revient à plusieurs reprises, ou Sophie Kahl, une artiste contemporaine, qui est également présente, mais que je transforme en personnage, ce qui du reste ne lui a pas beaucoup plu.
Même un personnage particulier, parce que c'est une érudite de la pomme de terre.
Voilà. Quand je la rencontre, je ne parle que de pommes de terre, de toutes les variétés de pommes de terre. Voilà. Et c'est amusant parce que, bon, Sophie Kahl s'est fait une petite célébrité en étant une intruse dans des lieux qu'elle visite et qu'elle inventorie, n'a pas apprécié d'apparaître à son insu dans un livre sans son autorisation.
Alors, je ne veux pas insister trop sur la jeune femme au chien, mais enfin, c'est une histoire amusante, parce que tout d'un coup, je crois, elle glisse sa carte de visite, sous un faux nom d'ailleurs, c'est Alexandra Webb. Vous allez, même si c'est fiction, on s'en fiche, rencontrer sa fille, qui va vous dire qu'en fait, elle s'appelle Rosa Rapace, je crois. Et en plus, vous allez échanger les chiens. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même dans ce livre des situations qui sont drôles. Il y a aussi la marchande de légumes qui tient une place, la marchande de légumes du marché qui tient une place importante. Hein. Il y a aussi, alors il y a plusieurs scènes sur le marché qui sont drôles, je veux dire. Il y a aussi l'opticienne qui, elle, n'est pas sur le marché.
Nouvelle opticienne.
Voilà, nouvelle opticienne. Vous voulez désespérément porter des lunettes et elle vous dit que, en fait, vous n'en avez pas besoin.
Voilà, c'est-à-dire que l'opticienne ne voit pas que j'ai besoin de lunettes.
Donc voilà, bon, y a toute cette part-là. En même temps, c'est aussi au-delà, on va dire, de ces personnages de fiction, qui sont aussi des personnages réels. C'est un livre qui est profondément traversé par, par votre vie, par la littérature, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a quand même quelques écrivains qui apparaissent dans ce livre. Il y a Henri Thomas. Sur deux moments, vous parlez d'André Duboucher, notamment, il y a un très, très beau passage. Quand vous êtes en promenade, vous voyez des fleurs et vous pensez à un poème dont vous dites qu'il vous émeut aux larmes. En évoquant les, je crois que c'est les eaux bleues, je ne sais plus quelle est la période sottise, même si je l'ai pris là.
Un poème qui se trouve dans son livre Où le soleil.
Où le soleil.
Oui, voilà. Qui est apparu en 1968.
Donc il y a d'autres auteurs, il y a un petit peu Louis-René Desforêts, un ou deux moments, notamment vous évoquez ce livre de 600 pages qu'il a brûlé, ou enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc la littérature aussi à travers certains auteurs, et puis il y a l'énigme Claudel qui traverse de manière plutôt humoristique, entre un plat de spaghettis et je ne sais quoi, le livre.
Et un chariot de supermarché.
Voilà. Et vous aimez Claudel?
Écoutez, c'est un sujet brûlant. Non, parce qu'il se trouve que j'ai rencontré des étudiants à l'université avant de venir. La question de Claudel a été posée. J'étais à milieu de penser que Claudel soit aussi visible dans ce livre, où il n'apparaît quand même que 3 ou 4 fois.
C'est ça qui le rend visible, en fait.
Oui. C'est un sujet compliqué pour moi, parce que Claudel est lié, en fait, à ma mère. C'est-à-dire que tous mes sujets de dispute avec ma mère, dans mon adolescence, à l'âge où on découvre les livres, venaient de Paul Claudel, dont elle était une lectrice très fervente, au point d'ailleurs de s'occuper de l'association des amis de Paul Claudel. Et elle trouvait en moi un opposant systématique, car je ne supportais pas le texte que Claudel avait écrit sur Rimbaud. Et cette récupération de Rimbaud dans le giron de l'Église catholique. Voilà. Donc, à cet âge-là, on peut avoir des coups de colère provoqués par des choses de ce genre. C'était mon cas. Donc, évidemment, je ne lisais pas Claudel. Je détestais Claudel par principe. Mais je dois reconnaître que, vieillissant, donc atteignant l'âge qu'avait ma mère à cette époque-là, je me suis mis à lire Claudel, et que je serais peut-être moins systématique dans ma critique. C'est vrai que c'est un poète qui mérite l'estime et le respect.
Puisque vous parlez de votre mère, il y a aussi votre famille traverse aussi ce livre, votre mère, à plusieurs reprises de manière très, très émouvante. Votre grand-père, dont vous dites que vous prononcez, vous causez pour la première fois son prénom, écrire, c'est Isaac. Et il y a page 398-399, il y a deux pages absolument sublimes sur votre grand-mère.
Oui, ça fait partie des scènes dont je parlais tout à l'heure, que je n'imaginais pas écrire un jour. Avec ma mère, c'est très difficile. J'ai commencé un jour un projet de livre que je voulais entièrement dédier à ma mère. Je n'ai pas réussi à l'écrire. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Ce sont des rapports extrêmement difficiles quand, avec quelqu'un qui a disparu, on réalise que la rencontre qui avait tout pour exister pleinement n'a pas eu lieu. Et donc on doit faire sans fin le deuil d'une rencontre qui n'a pas eu lieu. Et ma relation avec ma mère, c'est ça. Donc j'essaye de dire des petites choses. J'avance comme ça à très petits pas. Et peut-être qu'un jour, j'irai plus loin.
Voilà. Donc oui, ce sont de très beaux passages. Pour venir peut-être un petit peu sur la littérature. Alors, le poème, notamment au début du livre, le mot poésie que vous n'aimez pas beaucoup utiliser, juste titre, me semble-t-il, par ailleurs, au début, le livre tourne quand même pas mal. Il y a souvent des références au poème et à la poésie. Et après, ces références sont moins fréquentes, sinon à travers quelques auteurs. Et on va d'ailleurs retrouver des pages sur le théâtre avec lequel aussi vous entretenez un rapport étroit, qui est peut-être d'ailleurs aussi lié à votre mère. Voilà, donc le poème au début est très présent, je pense, dans ce livre.
Il y avait une façon de manifester dès le début que, bien que sur Twitter, je ne quittais pas des yeux l'exigence du poème, quoi, et la rigueur de l'écriture poétique. Je voulais que ça soit clair dès le départ. J'ai certains amis écrivains qui, voyant que je publiais un livre fait de tweets, se sont demandé si je n'étais pas tombé sur la tête, justement par rapport à ça, par rapport à l'idée qu'ils avaient de ce que je pouvais écrire. Et donc je voulais, dès le départ, annoncer la couleur, c'est-à-dire la couleur du poème. Et ensuite, bon, il me semble que les choses se sont d'elles-mêmes annoncées.
Et alors, bon, j'ai retenu deux phrases sur le poème. Je me demande comment font les gens qui n'ont que la vie pour vivre, je veux dire la vie sans poème. Ce qui veut dire aussi qu'on peut installer, entre guillemets, aussi le poème et sa présence en composant un livre à partir de Twitter. Il y a écrire de la poésie, c'est essayer, pardon, de se réapproprier mot après mot une langue confisquée aussi, vous écrivez à un moment donné.
On écrit avec les blancs, on écrit avec les vides. D'ailleurs, pour ça, Twitter est un outil très utile, car qu'on le veuille ou non, les blancs sont là, puisque on ne peut avancer que par petits morceaux de phrases, ne dépassant pas 140 signes. On écrit aussi avec les mots qu'on se cache à soi-même, hein, comme le montrent ces scènes qui s'ouvrent à cette histoire familiale. On écrit avec l'interdit, on écrit, on essaye d'approcher le plus près possible une vérité qui est la nôtre.
Alors, il y a d'autres formes de scansion dans le livre. Hein. On a parlé tout à l'heure au début de romans, gaieté, à travers Dieu. Et il y a des. Je ne sais pas s'il faut dire le mot formule. Hein, je ne suis pas un grand universitaire, parce que je ne le suis pas du tout. Il y a des formules. Alors, je ne veux plus, à un moment donné. Donc, et vous baptisez une espèce de forme de scansion, encore une fois, qui est d'un jour à l'autre. Est-ce qu'un jour. Alors, il y a souvent, évidemment, quand j'arrêterai la radio. Donc c'est aussi un livre qui est traversé par cela, qui donne du rythme. Hein. D'ailleurs, au livre est vraiment une cohérence encore plus forte. Et là, il y a un rythme qui s'instaure dans dans le livre. Et voilà, donc.
Oui, j'ai évidemment cherché à créer ce rythme à partir de formules comme celle-là, ou d'autres choses aussi qui sont là, qui scandent le livre dans son développement. Puisque beaucoup de scènes ont lieu en extérieur, hein, et dans les rues, tout simplement, ce sont les plaques commémoratives. Je crois avoir recensé la presque totalité des plaques commémoratives qui se trouvent sur les murs des maisons de Malakoff, donc cette banlieue où je vis. Et j'essaye de rendre de cette façon-là présents aussi tous ceux sans qui je ne pourrais pas aujourd'hui écrire un livre comme celui-là. Et ils sont là, ils sont des anonymes, au même titre que les autres que je rencontre dans les rues.
Et beaucoup de plaques commémoratives sont liées, même pratiquement toutes, à la Seconde Guerre mondiale, si je ne m'abuse, je crois qu'elles
toutes liées à la Seconde Guerre mondiale, oui.
Alors, par exemple, pour quand j'arrêterai la radio, donc ça donne des choses assez disparates. Quand j'arrêterai la radio, j'essaierai de devenir bouquet de fleurs séchées au-dessus d'une armoire normande. Quand j'arrêterai la radio, j'essaierai de passer mon temps à faire le malin. Parce que vous ne faites pas le malin à la radio.
Hélas, ça m'arrive. Hélas, ça m'arrive. Enfin, j'essaye de ne pas trop faire le malin. C'est difficile de faire le malin. D'ailleurs, quand on est face à un micro et que tout ce qu'on peut dire peut être retenu contre vous, il y a un élément qui est présent aussi dans le livre beaucoup, c'est la peur ou le trac. Et bien que faisant depuis 40 ans de la radio, j'ai toujours le même trac, la même appréhension quand devant un micro, la lampe rouge qui indique que le micro est ouvert s'allume. C'est-à-dire que j'ai vécu toutes ces années de radio avec cette peur, une peur qui ne donne pas vraiment envie de trop faire le malin.
En tout cas, c'était une peur qui a été importante pour beaucoup d'auditeurs. Il y a aussi alors cette phrase, quand j'arrêterai la radio, j'essaierai d'élever des pans bleus des Indes.
Ben oui, pourquoi pas, c'est une activité comme une autre, il n'y a pas de sous-métier.
Quel est le rapport que vous entretenez avec les pans bleus des Indes?
Aucun. Aucun, mais oui. Il faut y penser, quoi. Il faut trouver des motifs, il faut trouver des raisons de continuer après la radio. Et en voilà. Hein.
Alors, bon, parce que effectivement, je crois que d'ici un an ou deux, ça serait. Je ne suis pas dans l'actualité de France Culture.
D'ici un an ou deux,
que j'arrête. Ah non, moi non, personnellement non.
Écoutez, je peux vous donner l'information, si vous voulez, que j'ai décidé d'arrêter en juillet prochain. J'ai décidé d'arrêter la radio.
Après, il y a des phrases aussi qui parfois viennent comme ça. Bon, j'imagine qu'elles ne viennent pas évidemment par hasard. Bon, j'en ai retenu une ou deux, hein. Je ne peux pas tout retenir parce que, encore une fois, c'est vraiment un livre qui se lit dans la continuité, hein, mais il y a des éclats comme ça. Au XVIe siècle, j'avais encore une certaine idée du ciel. Ça vient comme ça dans le texte. Donc, ça veut dire que vous aviez envie d'écrire, je ne sais pas si c'était sur Twitter ou après.
Je dis, c'était ouais. Sur Twitter, oui. Et c'est bien sur Twitter de parler du XVIe siècle et parler du ciel n'a jamais fait de mal à personne.
Voilà. Voilà. Après, il ne faudrait pas perdre de vue, parce qu'on l'a évoqué un petit peu, c'est aussi, alors je parlais de l'ordre du journal, en tout cas du quotidien, c'est un formidable livre aussi qui dépeint des scènes du quotidien où vous surprenez des phrases que vous allez puiser, par exemple, à l'étal d'un marché, avec tel ou tel. Et là, il y a beaucoup de situations où vous jouez avec les. Enfin, vous reprenez, je pense, là, je pense qu'il y a une fidélité à la transcription, les mots des autres que vous retranscrivez, effectivement, ça prend une tonalité très, très oui. forte et très particulière.
C'est incroyable quand on écoute, comme ça, sans raison, avec une oreille vacante. C'est incroyable ce qu'on peut entendre. Et quelquefois, des phrases d'une force inouïe. Les écrivains ont ce grand privilège de pouvoir être des voleurs et de pouvoir, au passage, comme ça, saisir une phrase ou seulement un morceau de phrase et de l'envoyer en direct, presque, à chaud. Sur Twitter à des milliers de personnes. Quoi. Une phrase que la personne qui l'a prononcée n'a même pas réalisé la portée des mots qu'elle employait. Parce que c'est des phrases qui partent comme ça, des phrases perdues, voilà. Et le livre est aussi un recueil de phrases perdues, de mots perdus, mais pas pour tout le monde.
Ça vous ennuie, là, de lire un petit extrait ? Enfin, vous me dites, c'est pas celui-là que vous voulez lire. Moi, c'est sur la marchande de légumes.
Alors, il faut dire qu'avec la marchande de légumes se noue une relation un peu ambiguë.
Oui, totalement, oui.
11 heures, marché. La marchande de légumes fait allusion à notre rendez-vous manqué, sans la moindre démonstration d'émotion. Trop de topinambours à arracher. Je suis une faible femme, se lamente-t-elle en soulevant une caisse de pommes de terre. Et moi, toujours là, dans la queue, à guetter un signe, interpréter un mot ou un silence. Je me demande si elle n'a pas quelqu'un. Enfin, mon tour. Je la regarde droit dans les yeux. Et quand elle me demande ce que je veux, je lui réponds que je ne veux rien. Je ne sais pas si...
Si vous voulez, tenez un peu, continuez.
11h20. Je préfère me passer de rillettes que de me farcir la tête de cochon du charcutier. 14h. En route pour une lecture publique à Chaumont. Pas de voix. Et toujours le même sang d'encre. Une dame dans le train. Si on veut des pleins, il faut accepter les vides. Lire à haute voix, c'est-à-dire chaque fois à cœur ouvert. Mais chaque fois qu'on lit l'un de ces textes, on en arrache un peu la violence. La voix s'efforce de donner du relief à de l'indigence. La pire des craintes, être un auditeur comme les autres, dehors, pas dedans. En route, allez, il faut y aller. Face à toutes les craintes, ces écrits dont on connaît l'extrême fragilité comme unique refuge. Roman. Je voyais les mouvements des lèvres, les gestes des mains. Tout allait bien jusqu'à ce que je distingue tout à coup des paroles.
Ça donne une parfaite idée du texte. Alors, il y a aussi dans le livre de très très belles descriptions de la vie ordinaire. Je pense que la vie ordinaire est aussi dans ce livre. Et par exemple, il y a un moment donné, il y a foule devant la soupe populaire, un homme attend sagement son tour, un gros ours en peluche sous le bras. Donc on a aussi souvent des descriptions très attachantes, j'ai envie de dire. Vous avez un attachement, me semble-t-il, assez, assez fort à des situations comme ça que vous relevez, comme vous relevez des mots, ce que vous venez de dire dans le marché ou ailleurs. Il y a un attachement très fort à certaines scènes.
C'est que j'essaie d'écouter les gens, et j'essaye aussi de les voir, de les regarder, tout simplement. Voilà, c'était... on pourrait écrire beaucoup, beaucoup de livres uniquement en ouvrant les yeux et les oreilles.
Et cette, entre guillemets, intrusion de l'ordinaire et du réel dans un texte qui est parfaitement homogène, même si ce n'est pas le bon terme. Peut-être que est-ce que Twitter a peut-être permis ça quand même de manière assez évidente.
Oui, Twitter m'a permis de faire ce livre. Ça, je ne veux pas dire le contraire. Sans Twitter, j'aurais jamais pensé être à l'affût de détails comme ceux que vous avez mentionnés. Là. Ça, c'est certain. Voilà. Mais Twitter est donc une ressource pour un écrivain. C'est aussi un moyen d'amasser des matériaux à partir desquels, ensuite, on peut construire un livre.
Il y a un vrai travail sonore, photographique, sonore, on l'a vu, photographique, et qui transparaît. Enfin, de... Alors après, de temps en temps, il y a de légers, il y a des jugements, ou je sais pas, il y a pas trop de tendresse, par exemple, je relève, pas trop de tendresse en revanche pour mes contemporains en général et les misanthropes en particulier. Je relève ça.
Oui.
Ça vient comme ça à un moment.
Ben c'est vrai, vous savez, j'ai un côté Thomas Bernard, peut-être se voit pas trop là, mais qui est réel. Mais c'est vrai que à l'égard de mes contemporains, il m'arrive d'éprouver de l'amour, de la tendresse parfois quand même, et aussi beaucoup, beaucoup, quelquefois, de sujets d'énervement.
D'ailleurs, Thomas Bernard apparaît à travers une figure qui manifestement, un homme qui a énormément compté pour vous, qui revient à deux ou trois reprises, qui est Michel Cournot.
Oui.
Je ne sais pas si ça dit encore, j'imagine, mais voilà, il y a un attachement.
Michel Cournot était un très grand journaliste, donc qui, je ne sais pas raconter tout son parcours, il a commencé avec Pierre Lazareff, donc à faire des reportages sur tous les sujets de société. Et puis, ensuite, il est devenu critique de cinéma à l'Observateur. Et c'est lui qui a fait découvrir à plein de gens de ma génération le cinéma de Jean-Luc Godard, par exemple, avec des articles absolument formidables, inouïs, sur le cinéma de Godard. Il a fait lui-même un film... en 68 qui s'appelle Les Gauloises Bleues, et faisant ce film, qui est l'unique film qu'il ait fait dans sa vie, il a arrêté la critique de cinéma, et quelques temps plus tard il est devenu le critique dramatique du journal Le Monde. Voilà. Mais pour moi c'est un poète, c'est-à-dire que c'est Michel Cournot, c'est quelqu'un qui a montré que en écrivant des articles dans les journaux, au jour le jour, on pouvait aussi faire de la poésie. Je pense que quand on relit ces textes aujourd'hui, on est absolument fasciné par une écriture d'une force et d'une intensité inouïe, sans aucun équivalent dans la presse aujourd'hui. Voilà. Il a publié quelques livres. Il ne voulait pas publier de livre parce qu'il pensait que ce qu'il faisait, c'était au jour le jour, justement, de donner un peu de joie, d'émotion à ses lecteurs, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Il avait publié un premier livre de poèmes qui s'appelle Martinique, qui avait publié Jean Paulhan dans sa collection Métamorphose. Donc, ça, c'était vraiment dans l'après-guerre. C'est un des premiers volumes de la collection Métamorphose. Il a publié un compte-rendu du tournage d'un film de Clouzot, je ne sais plus très bien lequel, dans la collection de Lazareff chez Gallimard. Et puis, quand à un moment, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai fait de l'édition, j'ai eu une maison d'édition, et j'ai publié un livre de Michel Cournot, deux même, un livre de récits, qui s'appelle Histoire de dire, bon, qui est complètement disparu de la circulation, introuvable, et un livre qui reprend un choix qu'il avait lui-même fait de ses chroniques cinématographiques, qui s'intitule tout simplement « Au cinéma ». Et à ce moment-là, j'avais demandé à Gallimard l'autorisation de reprendre les titres qui se trouvaient chez Gallimard pour avoir une édition des, disons, des œuvres complètes de Michel Cournot. Et Gallimard a répondu qu'il ne donnait pas les droits parce qu'ils s'apprêtaient, eux, à le republier, ce qui n'a jamais été fait. Ils n'ont jamais republié les livres de Michel Cournot. Et actuellement, j'ai dans mes tiroirs une somme de photocopies des articles de Michel Cournot sur le théâtre. Et je dois les avoir depuis 2 ans, je n'arrive pas à trouver un éditeur pour publier ça. Et un éditeur pour publier aujourd'hui les textes de Michel Cournoud sur le théâtre. Alors de temps en temps, même une fois par mois, il venait dans mon émission du jour au lendemain où je lui demandais de parler des livres dont il voulait parler, quels qu'ils soient, même s'ils n'étaient pas dans l'actualité. Et donc c'était aussi des grands moments de radio de mon point de vue. Du reste, il parlait tout seul, je ne plaçais pas un mot dans ses émissions. Il aurait été extrêmement choquant de l'interrompre. Parce que sa parole était une parole qui s'inventait au fur et à mesure et on ne pouvait pas l'interrompre. Et l'un de ses auteurs de prédilection, c'était Thomas Bernard. Et un jour, il est arrivé au studio avec un livre de Thomas Bernard qu'il avait lu je ne sais comment, parce que le livre était, pour ainsi dire, déchiqueté.
Est-ce que vous dites ?
Vraiment déchiqueté. Donc, c'est dire la passion avec laquelle et de tout son cœur et de tout son corps, il avait pu lire un livre comme celui-là. Voilà. Donc, j'évoque ça oui, dans le livre. Mais en 140 signes.
Oui, en 140 signes. Il y a quelqu'un qui a édité, c'est la petite fille de Jean Paulhan, qui a édité les articles de théâtre de Jacques Le Marchand, d'ailleurs, qui sont plus intéressants. Peut-être que là, il y a une piste, je ne sais pas, pour Michel Cournoud. En plus, c'est quelqu'un qui fait vraiment dans ce travail. Enfin, Le Marchand était aussi à la NRF. Donc, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un peu. Un peu compliqué. Et la musique, un petit peu, traverse un tout petit peu, mais pas tant que ça, finalement, le livre. Alors, il y a quelque chose sur l'opéra.
Ben, j'écoute aussi, j'écoute beaucoup de musique, mais à certains moments, et surtout du piano. Justement, l'un des lieux qui revient, c'est la Roque d'Anthéon, où se trouve tous les ans un festival de piano que je ne manquerai sous aucun prétexte. Et voilà, alors... Il y a le moment du piano, puis il y a le moment de l'opéra. Oui, c'est bon. Bon, je vais lire un petit morceau vers la fin. D'un jour à l'autre, il n'est plus nécessaire de tuer le temps. Le temps s'en charge. D'un jour à l'autre, il n'y a plus de beauté à raviver. D'un jour à l'autre, on ne sait plus mentir à la vie. D'un jour à l'autre, la mort qui se rapproche vous laisse aussi désemparé qu'un amour impossible. D'un jour à l'autre, tout au plus cède la place à tout au moins. D'un jour à l'autre, tout ce qui a fait ce que vous êtes tombe en ruine, à commencer par votre visage. Je pense à Alberto Giacometti sculptant des figurines qui auraient pu tenir dans une boîte d'allumettes. Qu'ai-je fait tenir dans les 140 signes ? Même pas un visage. Le visage est la dernière chose qu'on puisse fixer. Giacometti n'a cessé de le répéter. Lui qui s'y est repris à des milliers de fois. Sur Twitter, des millions de signes, s'y reprendrait-on chaque jour pendant des mois, n'y suffiraient pas. Toutes ces lignes qui se croisent et se séparent sur le fil, porteuses de mots qui accentuent tel ou tel trait, ne fixent pas un visage. Peu de mots rappellent ce qu'on a vécu, beaucoup de mots en éloignent à jamais.